goût qui marche. Vous l'avez essayé? Ouf. Ça, c'est à voir. Hein. Merci. Bonjour, donc, mesdames et messieurs. Merci d'être venus si nombreux en ces vacances scolaires qui font que parfois il y a du gardiennage à effectuer. Alors moi, en l'occurrence, le gardiennage, maintenant, il a 16 ans ou 17 ans, ça va. Je considère que je peux les laisser seuls à la maison pendant un temps comme ça, relativement court. Je ne présente pas Jean-Michel Balabre, qui est tout de même notre historien de la période moderne et contemporaine, le plus qualifié pour nous parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie et à d'autres occasions de bien d'autres sujets qui concernent la période donc moderne et contemporaine. Et je vais lui laisser la parole.
Merci, Madame la Présidente. Bonjour à chacun et à tout le monde. Donc, je vais vous proposer pendant cet après-midi d'essayer de retracer l'histoire d'une loge maçonnique, de celle de Brive, en l'occurrence, la Fraternité, et essayer également de la replacer, l'histoire de cette loge-là, dans le contexte historique local, et on sera amené, bien évidemment aussi, à faire quelques références et quelques incursions sur le plan de l'histoire nationale. Alors, cette loge, aujourd'hui, est devenue la plus ancienne de Brive, puisqu'elle a été créée en 1867 et que les francs-maçons de la Fraternité ont fêté son anniversaire, donc au mois d'octobre de l'an dernier, donc 150 ans, désormais 151 ans. Donc, c'est une loge du Grand Orient de France, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Le plan que j'ai choisi est un plan chronologique. Ça m'a semblé celui qui était le plus pertinent. Donc, à partir de 1867, on va démarrer évidemment un petit peu auparavant, mais ce n'est pas un plan thématique, mais un plan ni chronothématique, mais un plan purement donc, chronologique avec l'enroulement des différentes périodes, avec peut-être davantage de temps qui sera consacré à telle ou telle période qu'à telle autre. Pourquoi ? Parce que dans ma première partie, je vais essayer de présenter quelques difficultés auxquelles l'historien est confronté lorsqu'il veut travailler sur la franc-maçonnerie, et notamment sur la franc-maçonnerie corésienne, et plus particulièrement, un peu comme les Pérusses, hein, donc à l'intérieur donc, de la maçonnerie corésienne, s'agissant de la maçonnerie, donc à Brive, celle de cette loge-là, donc la Fraternité. En effet, l'historien se heurte à deux difficultés essentielles, avec pour commencer le vocabulaire. Pardonnez-moi, je me suis avancé. Donc le vocabulaire, qui est un vocabulaire bien spécifique aux francs-maçons, donc il faut l'apprendre à le maîtriser pour pouvoir se pencher sur les sources d'archives et essayer de les décrypter de la manière la plus efficace possible. Deuxième difficulté, justement, les archives. Les archives. Le chercheur indépendant, provincial, de surcroît, et non maçon, se heurte à leur accès, donc se heurte aux sources. Parce que, en ce qui concerne la fraternité, si j'ai pu avancer et vous présenter ce travail-là, c'est parce que j'ai eu la possibilité, et je l'avoue, la chance de quoi ? Et bien d'avoir été mis en relation avec quelques-uns des responsables actuels, passés, et d'un passé relativement récent, responsables donc de cette loge du Grand Orient de France, qui m'ont ouvert, je dois l'avouer, en pleine confiance, et ça c'est une formule qui me paraît importante, leurs archives, ou, et je fais allusion à ce que j'ai laissé entendre il y a quelques instants, ou tout du moins ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, parce que, pendant la Seconde Guerre mondiale, on aura l'occasion de le développer de manière beaucoup plus ample, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu donc l'interdiction de la maçonnerie, et puis surtout, il y a eu des mesures qui ont été prises par les responsables de la loge de l'époque, qui ont mis soit en sécurité un certain nombre de documents, soit les ont carrément détruits. Bon, quand c'est détruit, c'est détruit. Hein, donc ça a été brûlé. Ça varie selon les sources auxquelles j'ai pu avoir accès, mais très probablement ça a été brûlé donc, sur la commune d'Alassac, parce qu'il devait y avoir un franc-maçon, donc un frère, on va les appeler comme ça, qui y résidait. Et puis, deuxième cas de figure, deuxième élément, les sources existent, mais ne sont pas très très facilement consultables, parce que ce que les francs-maçons appellent le livre d'architecture, en d'autres termes, le registre sur lequel sont consignés par le frère secrétaire l'ensemble des choses, on va employer ce terme-là, qui ont été dites pendant les travaux, la tenue, c'est-à-dire la réunion maçonnique, eh bien, donc ce livre-là a été enterré par le vénérable maître, c'est-à-dire le président de la loge, ça a été enterré, c'était le sénateur Labrousse, ça a été enterré, alors là j'ai trouvé deux sources différentes, ça a été entraîné, soit ça a été donc protégé, ça a été donc mis en sécurité, soit dans son jardin, première source que j'ai trouvée, soit dans sa cave, et donc ça a été enterré, et au lieu, à la fin de la guerre, que ça soit récupéré, eh bien, j'ai pu y avoir accès, les regarder, et donc ça a été déterré donc, à la disparition de l'intéressé, donc en 1951, et bien évidemment, c'est dans un état qui ne permet pas une utilisation maximale. Bien. Alors, de plus, donc ça, c'est à l'échelon local. J'ai eu de la chance, puisque j'ai pu être en relation, mais malgré tout, les sources ne sont pas parfaites. Voilà, elles sont donc lacunaires. Deuxième élément, je suis allé donc au siège du Grand Orient de France, pas le siège en lui-même, hein, à la rue Cadet à Paris, je ne sais plus dans quel arrondissement, mais plus particulièrement, on consultait les archives. Les archives pardon, qui avaient été transmises donc par l'échelon local à l'échelon central, donc au siège du Grand Orient, donc à Paris. Et donc, j'ai trouvé des éléments, et ça m'a permis de retrouver un certain nombre de documents qui avaient été exploités par François Deloz, qui, dans les années 80, j'ai pu en tête les trois articles qu'il a eu l'occasion de publier dans le bulletin de la Société. Donc, il a démarré dès les origines. Moi, je me suis surtout servi, bien évidemment, puisque c'est 1967, de la partie que l'on va considérer comme contemporaine, hein, du travail de François Deloz, c'est-à-dire le 19e siècle, et lui s'est arrêté en 1939, au début de la guerre. Donc je me suis servi, bien évidemment, des travaux de François Deloz, dont j'ai retrouvé un certain nombre de sources qu'il avait lui-même utilisées dans les archives du Grand Orient de France, ce qui est assez cohérent, évidemment. Bien. Enfin, ultime remarque. Donc dans ces précisions-là liminaires, ultime remarque, je n'aborderai pas ici, ce soir, les origines médiévales de la franc-maçonnerie, puisque je préfère entrer directement dans le vif du sujet, à savoir que la maçonnerie donc briviste, elle a démarré quasiment avec l'histoire de la création, avec la création donc de la loge de la fraternité, et donc bien évidemment, au XIXe siècle. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, effectivement, à travers ce que les historiens appellent, et les francs-maçons aussi, la franc-maçonnerie moderne, qui est dite aussi spéculative. Hein, franc-maçonnerie moderne ou spéculative, donc c'est la franc-maçonnerie qui travaille en loge. La franc-maçonnerie qui travaille en loge, et on l'oppose communément à une autre forme de maçonnerie, plus ancienne, la maçonnerie opérative, cette maçonnerie opérative qui est donc un vocable qui désigne les membres des corporations, des bâtisseurs qui construisirent des édifices, les cathédrales en particulier, donc au Moyen-Âge. C'est pour ça que je vais laisser de côté ceci pour évoquer simplement donc l'histoire de cette loge dans le cadre de la maçonnerie moderne dite spéculative. Un petit rappel, à savoir que cette maçonnerie spéculative, elle est née en Angleterre. Elle n'est pas née en France. Hein. Elle est née en Angleterre, quand ? Au siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle. Comment et dans quel contexte ? On peut aller un tout petit peu au-delà sans rentrer dans les détails. Et autant que les historiens ont pu le mettre en évidence, là aussi avec la réserve d'usage, autant que les historiens ont pu le mettre en évidence, eh bien, c'est en 1717, hein, donc c'est vraiment le début du XVIIIe siècle, que quatre loges anglaises, donc la loge anglaise, donc la loge qu'on appelle aussi l'atelier, c'est la cellule de base de la franc-maçonnerie. Hein. Donc, alors, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est l'oie et le gril, la couronne, le pommier, le gobelet et le raisin, donc en Angleterre et plus particulièrement donc à Londres. Elles sont toutes installées dans des tavernes à Londres, en 1717, d'où leur nom, hein, en particulier le gobelet et le raisin. Et elles se réunissent dans l'une des tavernes des quatre que j'ai citées, c'est-à-dire l'Oie et le Gril. Et là, elles se fédèrent en grandes loges de Londres et de Westminster. Et on peut dire que la première obédience maçonnique, hein, une obédience est une fédération de loges qui sont donc regroupées sous une même autorité administrative, donc c'est la création, à partir de 1717, de la première obédience donc maçonnique. Dans la foulée, que font bien ces francs-maçons de ces quatre loges anglaises qui sont constituées donc en obédience ? Eh bien, ils désignent un grand maître. Donc, un grand maître des maçons. Et 1717. Remarque intéressante. Et là, on va revenir à l'histoire finalement locale, puisque un tout petit peu plus tard, deux ans plus tard, en 1719, par conséquent, eh bien, la Grande Loge d'Angleterre va se donner pour nouveau grand maître quelqu'un qui n'avait pas un patronyme à proprement parler britannique. C'était Jean-Théophile Desaguliers, qui est un passeur, dont le patronyme donc, est plutôt français et en l'occurrence, on ne va pas dire corrézien, puisque la Corrèze n'existait pas encore, hein, mais pas limousin, puisqu'effectivement sa famille était d'origine balimousine, sa famille paternelle a vécu dans la région du Zerche et elle avait quitté, donc je rappelle que c'était un pasteur, hein, donc qu'elle avait quitté sa famille, le royaume de France, depuis le port de La Rochelle. Et plus tard, cette maçonnerie moderne qui a pris naissance et source en Angleterre, elle va migrer, notamment sur le continent. Et elle va donner naissance, donc, en 1728, au futur Grand Orient de France. Alors, pourquoi j'emploie le terme futur Grand Orient de France ? Parce que ce n'est pas en 1728 la forme qui est celle qu'il a aujourd'hui. Il faudra attendre 1773 pour que le Grand Orient de France naisse véritablement, issu de cette première structure dont on a parlé, naisse véritablement et prenne sa forme et son nom actuel. Bien. 150 ans, puisque ça revient à ça, après la création de la Grande Loge de Londres en 1717, eh bien, en septembre 1867, arrive, que se passe-t-il ? Une loge du Grand Orient de France allume ses feux. Alors, qu'est-ce que ce terme-là, employé par les francs-maçons ? L'allumage des feux, c'est la première réunion, la première tenue qui a lieu après la création de la loge. En d'autres termes, c'est la tenue inaugurale. Ça a lieu au mois de septembre, donc 1867. Et dans cette ville qui ne s'appelle pas encore Brive-la-Gaillarde, hein, il faudra attendre officiellement 1929, dans cette cité, eh bien, cette loge prend pour nom distinctif la fraternité. Alors les francs-maçons, manifestement, ont pour principe de mettre systématiquement devant le nom de chaque loge le vocable « respectable loge ». Donc la respectable loge, la fraternité, est créée donc à l'Orient de Brive. Et la convention non distinctive que j'ai rappelée, elle s'installe rue des Fours. La rue des Fours, c'est pas très loin d'ici, hein, c'est l'actuelle rue du Clocher, à deux pas de la collégiale Saint-Martin. 1867, c'est la fin du Second Empire. Et même si ce Second Empire a pris un virage libéral, à son caractère autoritaire qui a été le sien pendant assez longtemps, pendant donc plusieurs longues années, eh bien, donc, c'est en 1860 hein, que le basculement se fait, en 1860, le fait qui est notable et qui est donc important, c'est qu'à Brive, il y a désormais une loge maçonnique du Grand Orient de France. Mais, et là je vais faire référence aux travaux de François Deloz, il a montré, et donc j'en ai trouvé la confirmation, que avant 1867, il y avait eu d'autres loges Amri, mais dont la dynamique, on va employer ce terme-là, avait été beaucoup plus limitée, dont l'histoire avait été mouvementée et qui n'avait pas pu donc s'installer dans le temps. Donc François Deleuze a montré que les francs-maçons de la fraternité n'ont pas été des précurseurs. Pourquoi ? Et dès 1748, hein, ça remonte une bonne vingtaine d'années auparavant, eh bien, des réunions maçonniques ont été donc signalées à Brive. Et il faut attendre 1778 pour qu'une loge qui s'appelle l'Amitié, l'Amitié fraternelle, soit reconnue par le Grand Orient. Elle disparaît en 1792, l'année où la République est proclamée. Cette loge donc disparaît. Elle renaît, c'est pour ça que je dis que ça a été une histoire qui a été mouvementée. Elle renaît en 1808 pour quelques mois seulement, sous un autre nom, celui de la respectable loge des Amis de la Paix et de l'Humanité. Donc, ce que l'on peut dire, 1867, lorsque est créée la fraternité, eh bien, elle repose sur un socle qui n'est pas très très solide, puisque finalement, ces expériences-là dont on a parlé ont fait long feu. Et on peut considérer que la création, fondation de la fraternité marque une nouvelle étape dans l'histoire de la ville et de la maçonnerie corésienne. Eh bien, créer une loge est une chose, la faire fonctionner en est une seconde, c'est l'évidence même. Et les débuts vont être très difficiles. Vont être difficiles parce que le contexte politique n'était pas très très favorable, et je vais essayer de vous rappeler les principales étapes, les principales difficultés auxquelles ont été confrontés les premiers francs-maçons de Brive, hein, si on considère que ça démarre véritablement dans les conditions que j'ai rappelées en 1867. Alors, toujours avec la même remarque d'usage, autant que les sources historiques permettent de le laisser supposer, parce qu'elle s'avère donc parcellaire, donc parfois inexistante, la loge se choisit pour vénérable maître, le président de la loge ou de l'atelier, Pierre Lacoste. Pierre Lacoste, le premier vénérable maître de cette loge, c'était un ligoriste, un maître ligoriste. Donc, à Brive, évidemment, il y avait des établissements de ce type-là. Et dans un rapport de police, il est présenté, parce que la police, là, est bien présente. Hein, on se doute, 1867, c'est encore l'Empire, même s'il est libéral. Malgré tout, la police est bien là. Et donc, dans un rapport de police, il est présenté par le sous-préfet de Brive, qui évidemment, demander un travail d'enquête auprès de la police locale. Il est présenté comme un homme, je cite, « ne fréquentant que la haute société ». Premier élément, un homme ne fréquentant que la haute société, néanmoins très influent, et c'est le troisième aspect qui, à mon sens, est le plus important, et très aimé dans les classes inférieures. Donc un homme qui devient le premier vénérable maître de cette assemblée-là. Alors, lors de ses premières tenues, de ses premières réunions rituelles, la loge de Brive s'attache à élaborer un règlement intérieur. Il n'est pas obligatoire, a priori, hein, d'après ce que j'ai pu voir au niveau du Grand Orient de France, mais la loge locale décide de bâtir un règlement intérieur s'agissant du fonctionnement de ce qu'on appelle aussi l'atelier. Atelier-loge, donc c'est synonyme. Et ce règlement, il est assez étoffé, puisqu'il y a 41 articles, quand même, 41 articles, et j'ai pu y avoir accès, parce que dans les archives de la loge de Brive, il y a effectivement donc un exemplaire original, vous en doutez, qui a été conservé, qui est passé de génération en génération. Donc dans les fonds des archives de la fraternité, j'ai pu y avoir accès. Alors, sur la foi de ce document, qu'est-ce que l'on apprend ? On apprend que les francs-maçons se réunissent deux fois par mois, à savoir le premier et le troisième samedi de chaque mois. Donc, on a vu l'endroit où c'était, hein, donc rue des Fours, rue des Clochers, par la suite. Donc, deux tenues par mois, le samedi. Toutefois, est-il précisé dans l'un des articles, que je n'ai pas noté parce que ça a pris une importance capitale, les autres samedis, c'est-à-dire le deuxième et le quatrième, peuvent aussi donner lieu, je cite, à des séances consacrées spécialement aux réceptions, pardon, d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Alors, pour comprendre, s'agissant de la franc-maçonnerie de base, c'est-à-dire telle qu'a fonctionné la loge La Fraternité, il y a trois grades. Au total, il y a 33 grades dans la maçonnerie, mais dans les loges dites bleues, telles que celles dont on parle aujourd'hui, et déjà à l'époque, trois grades, apprenti. Lorsqu'on est initié, on est initié apprenti, puis après des travaux qui ont été menés, au terme d'un délai qui varie, on accède au grade de compagnon, puis après le grade de compagnon, on accède à la plénitude, dit-on, c'est-à-dire on devient maître maçon. Donc, il peut y avoir, entre-temps, si on en croit ce règlement particulier, des tenues qui sont réservées aux réceptions d'apprentis, de compagnons et de maîtres, c'est-à-dire les initiations pour les apprentis, ce que les maçons appellent les augmentations de salaire, changement de grade, donc on passe d'apprenti à compagnon, donc ça peut avoir lieu tel samedi, puis de compagnon à maître, tel autre samedi. On aura l'occasion de voir que pendant la guerre, ça n'a pas pu être respecté, la Première Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait allusion, la maçonnerie n'existait plus, n'avait plus le droit de citer. Qu'est-ce que l'on apprend aussi? On apprend que dès le début, c'est assez original, la fraternité se dote d'un frère servant. Frère servant, qu'est-ce que c'est? Il a fallu chercher pour se rendre compte qu'un frère servant, c'est un franc-maçon de la loge qui est chargé d'exécuter les tâches que l'on va dire pas spirituelles, mais les tâches domestiques, notamment l'entretien du temple, et ceci moyennant rétribution et surtout logement sur place. Donc les francs-maçons d'origine se sont dotés d'un frère servant. Qu'elle loge sur place et qu'elle rémunère, je l'ai laissé entendre, en conséquence. Et la rigueur semble être bien présente pour, si on en croit ce règlement-là, elle est bien présente si on en croit justement tel ou tel article. Parce que ça, pardonnez-moi l'expression populaire, ça ne bricole pas. Si c'est appliqué, ça on ne sait pas, c'est en 1067. Ainsi est-il rappelé que tout frère en tenue doit être muni de son glaive. Muni de son glaive, c'est normal, puisque quelle que soit l'origine sociale des francs-maçons, eh bien, ils sont censés porter un glaive officiellement. Et donc, avec l'évolution du temps, ils n'en portent plus, ils portent simplement ce qu'on peut considérer comme étant le baudrier, avec donc, l'équivalent de ce qui, à l'origine, pouvait être rattaché ou pouvait être rattaché à l'origine, donc un glaive. Donc en tenue, il doit être muni d'un glaive, conserver l'ordre le plus parfait et ne se livrer à aucune causerie particulière. Être attentif et pas discuter avec le voisin sur le banc ou sur la chaise de la colonne. Bien sûr, il ne saurait passer d'une colonne à l'autre, ni prendre la parole s'il ne l'a pas obtenue. Voilà. La circulation de la parole en maçonnerie, autant que cela peut apparaître, est codifiée, c'est-à-dire que il y a un respect des uns et des autres, et pour s'exprimer sur un sujet, eh bien, il faut en demander l'autorisation, et elle est accordée ou pas. Donc là, hors de question, bien évidemment, de se lever, et puis donc, de s'exprimer sans y avoir autorisé. L'article 26, on va les multiplier, précise que tous les membres de l'atelier, donc de la loge, devront également présenter chaque année une planche d'architecture. Alors, planche d'architecture, vocabulaire maçonnique, une planche est un travail oral qui est effectué donc, par un frère, donc par un franc-maçon. Donc, il doit chaque année présenter une planche d'architecture, pardon, ou prononcer un discours. Car, est-il précisé, les francs-maçons doivent s'éclairer mutuellement de leur lumière. Et un peu plus loin, il est précisé dans ce même article 26 que chaque frère choisira le sujet philosophique, moral ou scientifique qui lui conviendra de traiter. Ça, c'est la théorie. Comment ça a été appliqué à l'intérieur de la loge, on ne peut pas savoir. Par contre, il y a quelques éléments qui nous permettent de voir qui est franc-maçon à ce moment-là. Et rapidement, je répète, 1167, Second Empire, la République, la troisième du nom, n'est pas encore là, il faudra attendre le 4 septembre 1870, mais ça va rester une coquille vide hein, donc jusque pendant donc, l'équivalent de 5 ans, hein, jusqu'aux lois constitutionnelles, eh bien, les Républicains investissent la loge d'Aubrive, la loge du Grand Orient, la Fraternité. Et il y a deux grandes figures qui l'animent, deux grandes personnalités qui ont joué un rôle plus ou moins important à l'échelon local, qui sont donc des maçons, on va dire, de combat pour les idées républicaines, bien évidemment, hein, en cette fin de Second Empire. Alors, le premier, c'est Auguste Le Charbonnier, qui a été vénérable pendant un bout de temps, hein, il a été vénérable pendant 14 ans, président de l'atelier pendant 14 ans, de 1868 à 1882. Donc c'est lui, autant que je m'en souviens, qui a dû succéder à Pierre Lacoste. Et puis le deuxième, c'est Charles Bosch, B-O-S-C-H-E. Tous deux, dans le passé, des républicains convaincus, ont connu la prison pour leurs idées, pas maçonniques, hein, pour leurs idées républicaines, dans d'autres départements que celui de la Corrèze. Donc ils ont été internés pour avoir donc défendu la cause de la République, c'était bien auparavant, au moment où l'Empire n'était pas l'Empire libéral, mais était l'Empire autoritaire. En effet, j'insiste là-dessus, parce que ça me paraît important, en cette fin de décennie 1860, la République reste encore un idéal. C'est un idéal virtuel. Et donc, il faudra vraiment attendre 1875, je vous l'ai dit, pour que, j'aime bien la formule, pour que la République devienne républicaine, entre guillemets, hein, pour que vraiment, elle soit installée sur ses rails. Alors, dans ce contexte bien particulier, la fraternité doit faire face à la politique de l'ordre moral. L'ordre moral, c'est quoi? C'est cette coalition des droites qui est au pouvoir sous l'autorité de Macmahon et dont le but suprême, est de restaurer la monarchie. Hein, de restaurer la monarchie, notamment, par la reconquête religieuse, c'est important ça, hein, semble-t-il, la reconquête religieuse de la société et la lutte contre le radicalisme républicain. Alors, le parti radical n'existe pas, ça sera 1901, mais l'idée républicaine et le mouvement, l'idée radicale, pardon, et le mouvement radical existe, hein, même si c'est pas, le mouvement n'est pas structuré en parti, c'est le plus ancien parti de France, hein, le parti radical, tout du moins ce qu'il en reste aujourd'hui. Ainsi, pour confirmer ce que je vous dis à deux reprises dans ces années 1870, la fraternité est contrainte à fermer ses portes. C'est-à-dire que plus de possibilités de se réunir par autorité, bien évidemment, par décision de l'autorité qui a pouvoir sur ce plan-là, de politique et puis policière, qui fait respecter donc la décision qui est prise. Janvier 75 à juillet 76, là, c'est donc pendant un an et demi, c'est impossible aux francs-maçons de se réunir dans leurs locaux. Et puis, au cours de l'année 1877, donc ça ouvre à nouveau, puis ensuite 1877, elle est fermée à nouveau lors du deuxième semestre, on peut dire, de juillet à décembre 1877. Et quand enfin le président Macmahon se soumet en tenant compte de la victoire de la gauche lors des législatives de 1877, eh bien la fraternité est rétablie dans ses pleins droits, et à partir de ce moment-là, elle peut à nouveau travailler, et le fera jusqu'à aujourd'hui, manifestement, avec la parenthèse, et sacrée parenthèse dont on parlera tout à l'heure, et j'insisterai, la parenthèse du régime de l'État français dit de Vichy, où là, eh bien, ça ne s'est pas très bien passé, mais pas seulement pour cette loge-là, mais pour l'ensemble des loges de France. Alors, 1877, c'est parti, 10 ans après, là, les rails sont donc solidement établi, construit, et ça fonctionne. Et puis, la même année, 1877, alors que l'on pensait que tout allait très bien se passer, quel est le fait qui apparaît? Eh bien, le 8 septembre 1878, oui, c'est la date précise, elle subit un essaimage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un essaimage? C'est à l'image des abeilles qui quittent leur ruche mère pour former une nouvelle ruche. Eh bien, en franc-maçonnerie, il peut y avoir, si manifestement, un nombre de francs-maçons et réglementaires peuvent quitter leur loge mère pour bâtir une nouvelle paruche, hein, une nouvelle loge, dans un autre orient, c'est-à-dire dans une autre ville. Et là, 19, c'est un chiffre symbolique pour ce département, hein, qui existe désormais. Donc 19 frères de la fraternité, ce qui manifestement est beaucoup, et s'aiment, donc quittent la fraternité et vont créer une nouvelle loge, un nouvel atelier à Tulle. Et comme ça vient de la fraternité, le nom qu'ils se choisissent, Tulliste, franc-maçon Tulliste, il appelle la respectable loge l'intime fraternité. Donc il y a un lien entre les deux. Mais c'est amputé d'un... Alors, ce qui est embêtant, c'est que je n'ai pas retrouvé la liste en 1877 hein, du nombre des francs-maçons qui étaient présents. Mais 19, manifestement, c'est un chiffre qui est relativement important. Alors, des débuts difficiles. Pendant ces 10 ans, hein, 1867-1877, c'est difficile, il n'empêche, et c'est un autre point de mon plan donc, chronologique, il n'empêche eh bien, que ce qu'on va bientôt appeler pardon, la Belle Époque, à la Belle Époque, la fraternité a une présence réelle dans la cité. Elle exerce, on va voir, peut-être le terme d'influence, je ne sais pas, mais elle est vraiment bien, bien présente, ça, je crois que c'est incontestable, dans la vie de la cité, qui, je le répète, ne s'appelle pas encore la Brive de la Gaillarde, donc dans la cité Gaillarde. Alors, la fraternité, elle, 1876, elle change de locaux. Elle change de locaux, elle quitte ses premiers locaux, son premier temple, et elle s'installe aux 7 rues de l'Estang, donc pas très loin d'ici, hein, et pas très loin de son premier temple, on va dire, allez, à une coudée. Et elle va y rester, si j'ai bien consulté les archives, elle va y rester donc très longtemps, jusqu'aux années, plus d'un siècle, jusqu'aux années 1990. Elle va s'installer dans un autre local. Il me paraît judicieux de soulever ici, soulever, terme excessif, mais de rappeler ce fait-là, qu'elle s'installe donc aux 7 rue de l'Estang, et que là, par l'intermédiaire d'une société immobilière, les francs-maçons de la fraternité, et là ils sont 32, donc ils sont 32 à acquérir un immeuble, donc l'immeuble, devenir le leur, hein, cette rue de l'Estang, dont le rez-de-chaussée, c'est ce point sur lequel je voudrais insister, dont le rez-de-chaussée, eh bien, va devenir une boulangerie coopérative. On est au moment où l'idée de mutualité, de coopération, de coopérative, sont en train, ces idées-là sont en train de se manifester, et donc cette boulangerie coopérative, elle est impulsée par la loge elle-même. Alors, le boulanger, a priori, n'est pas franc-maçon, mais au rez-de-chaussée, le temple devant être au premier étage, il y a donc cette boulangerie coopérative, et ça sera son siège, je vous l'ai dit, pendant un petit peu plus d'un siècle. Donc, ni la boulangerie, ni la loge ne sont présents aujourd'hui là-bas. Les premiers francs-maçons de la fraternité ont tenté de répandre dans la cité, dans la ville, les vérités qu'ils ont été censés avoir acquises dans le temple. Alors, indépendamment de la création de cette boulangerie coopérative, l'adjectif là est essentiel, il faut faire remarquer que la loge a été à l'origine de la mise en place en 1870, 3 ans après sa création, d'une bibliothèque, donc bibliothèque populaire, qui a été autorisée par le sous-préfet de Brive, avec une réserve, la réserve de transmettre au sous-préfet la liste, le catalogue, dirions-nous, des livres qui sont achetés. Le fonds, il y a un droit de regard, on ne peut pas acheter n'importe quoi, attention, hein, donc c'est manifestement, strictement contrôlé. Elle a, bien sûr, pas la bibliothèque, hein, mais la loge, elle a davantage œuvré, donc dans le but, c'est assez logique par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques instants, de faire triompher à Brive les idées républicaines. Alors, si l'on en croit un rapport du sous-préfet, renseigné par la police, daté de 1875, la loge est au travail, je cite, en permanence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que elle travaille pas seulement 2 fois par semaine dans ses locaux, lors des tenues, mais elle est présente dans la vie de la cité et elle essaie de faire avancer ses idées et surtout les idées républicaines. On y revient une fois encore. Alors, elle est présente où ? Travaille en permanence. notamment dans deux cafés de la ville. Ils ne sont pas cités, mais rapport police et celui qui devient celui du sous-préfet. Donc dans deux cafés de la ville, à la société coopérative de boulangerie, c'est l'évidence même, au syndicat des ouvriers sabotiers, et ça c'est important parce que hein, l'industrie, on est au-delà de l'artisanat, il y a une petite industrie donc de la saboterie à Brive et qui va rester donc jusque on va dire la première moitié du 20e siècle. Donc là, il y a les francs-maçons présentes aussi à la société chorale des enfants de Brive. Elle est présente, bien évidemment, au sein du journal La République, qui porte bien son nom, qui a été créé par Le Charbonnier, dont on a parlé, le deuxième vénérable maître de cet atelier. Et avant tout, elle est présente, c'est le meilleur moyen manifestement pour pouvoir faire passer quelques idées essentielles, en l'occurrence républicaines, au sein du conseil municipal, puisque là, en 1800... j'ai pas la date, mais c'est la même période, 1875, oui, puisque le rapport de police est daté de cette année-là, il y a, parmi les 25 conseillers municipaux, des hommes, uniquement. Ça n'a pas de surprise, hein, puisque le droit de vote n'est même pas acquis pour les femmes, eh bien, il y en a 16 sur 25. Donc, on peut imaginer que ça facilite un certain nombre de prises de décision. Alors, avec l'entrée dans le siècle nouveau, le XXe siècle, l'action politique semble toujours être l'une des priorités de la loge. Hein, donc ça, la conquête de la République s'est actée, c'est fait, mais fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, malgré tout, les idées politiques sont bien présentes. On peut dire qu'à ce moment-là, c'est une maçonnerie de combat. Ainsi, lorsque Michel Labrousse, qui est député radical de la Corrèze en 1884, qui sera élu 10 ans plus tard, sénateur de la Corrèze, accède au plateau de Vénérable Maître, hein, donc lorsqu'il accède à ses responsabilités-là, en 1895, au mois de janvier, il tient à rappeler dans son propos liminaire ceci, qu'aujourd'hui, où la politique est partout, elle doit être dans les loges. C'est entendu, aussi, on va pas s'en priver. Donc c'est ce qu'il dit. La seconde priorité de la fraternité, telle qu'elle apparaît à travers l'analyse des archives disponibles, avec les remarques que j'ai formulées tout à l'heure, consiste à réduire l'influence de l'Église catholique dans la société. On n'est pas encore en 1905. On va en dire quelques mots avec la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre. Mais là, fin du 19e, début du 20e siècle, il faut réduire l'influence de l'Église catholique dans la société. Ça commence très tôt. Dès 1869, la loge approuve à l'unanimité la proposition Massol. Massol, c'était un franc-maçon, pas de Brive, hein, d'une loge parisienne, Alexandre de son prénom, qui a œuvré au sein du Grand Orient de France pour une évolution vers une franc-maçonnerie, celle du Grand Orient de France, émancipée de toute référence à Dieu. Puis, position, hein. Je vais en dire un mot et petite remarque à cet égard, il faudra attendre un tout petit peu plus tard, 1877, pour que le Grand Orient de France décide, une sorte de schisme, décide qu'il ne sera plus fait aucune allusion lors des initiations, lors de l'ouverture des travaux, donc dans les rituels, à quoi ? Eh bien, à un grand architecte de l'univers, c'est-à-dire à un dieu, quel qu'il soit, et le franc-maçon, et le profane qui devient franc-maçon, et qui doit prêter serment et obligation, avant prêter sur un livre qui était un livre saint, hein, donc la Bible, et bien désormais, 1877, ça c'est terminé. Donc là, Massol, il milite pour ça. Et donc cette proposition s'est exprimée lors du convent. Alors qu'est-ce que c'est que le convent ? C'est l'assemblée générale annuelle des loges, c'est-à-dire que chaque loge envoie un délégué, en principe, ça a lieu à Paris, on voit un délégué par loge, hein, quelle que soit la taille et l'importance numérique de la loge, c'est le principe, une loge, une voix. Et là, il y a des décisions sont prises qui ensuite seront appliquées, on verra peut-être par qui et de quelle façon. Donc, cette proposition de Massol, qui s'est exprimée lors du convent, je ne sais plus de quelle année, hein, donc elle disait quoi ? Elle tendait à ce que soit organisé un convent, non pas annuel, ordinaire, mais un convent extraordinaire à Paris, le jour, c'est pas innocent, de l'ouverture à Rome du concile œcuménique, celui que l'on appellera désormais, enfin qu'on appelle désormais Vatican I, hein, puisqu'il y aura Vatican II par la suite avec Paul VI, hein, en 1962 juin, il faudrait vérifier. Donc voilà, voyez bien la démarche. Là, on veut créer, on veut organiser un convent extraordinaire pour montrer que les francs-maçons de France, de l'ensemble de la France, eh bien, sont présents et ne sont pas d'accord avec donc, ce que l'Église romaine va être à même de mettre en œuvre dans le cadre de ce concile. Donc, un anticléricalisme, c'est évident, qui est solidement ancré au sein de la loge, et les années suivantes, quelques faits que je vais évoquer, eh bien, le démontrent très clairement, le confirment. 1883, candidature, donc pour devenir apprenti franc-maçon, d'un cheminot de la compagnie, pas la SNCF, hein, de la compagnie du Paris-Orléans, eh bien, candidature ajournée au motif, je cite, j'ai trouvé ça dans les archives à Paris, en Orient, au motif qu'il, je vous le cite exactement, pour respecter, qu'il fréquente trop assidûment les églises. Donc anticléricalisme, donc ça ne marche pas. 1888, c'est le frère Labrousse, hein, donc le père du futur sénateur, petit sénateur père en fils, hein, donc François Labrousse, donc Michel Labrousse, et lui, à la tribune de l'Assemblée nationale, donc il était député à ce moment-là, il propose d'amputer de 10 000 francs, pas rien, hein, 10 000 francs, la ligne budgétaire relative au traitement des évêques, afin d'obtenir la suppression des évêchés qui ont été créés après le concordat signé avec Bonaparte, donc en 1801. Alors, soit dit en passant, peine perdue, hein, il n'a pas gagné. Un peu plus tard, ça c'est davantage signifiant pour les brévistes, hein, en 1892, l'ex-frère Élie Breuil, pourquoi ex-frère, parce qu'il avait quitté, donc, mais il avait été maçon, donc il deviendra maire de Brive, il a sa rue à Brive, eh bien, il est vilipendé, ce brave homme, donc cet ex-frère, pour avoir quitté la franc-maçonnerie afin de pouvoir se marier, je cite, de façon scandaleuse. Donc, si on décrypte, vous avez compris, façon scandaleuse, c'est devant monsieur le curé. Hein, donc, il n'est plus franc-maçon, mais on a toujours un œil sur son comportement. Et puis, la même année, donc 92, dans son compte-rendu du convent, cette assemblée générale des loges, auquel a participé le vénérable maître qui est le délégué de la fraternité, donc le frère Renaudy, rapporte, je cite, « Combien les préoccupations politiques ont pesé sur toutes les délibérations et précise que la séparation des églises et de l'État est impatiemment attendue de tous les républicains. » Ça, c'était en 1892, et une bonne décennie sera nécessaire pour que soit votée le 9 décembre 1905 la loi de séparation des églises et de l'État, qu'elle bien évidemment à s'appliquer. Avec l'entrée dans ce XXe siècle, la loge s'intéresse encore à la vie politique, à défaut d'y prendre une part aussi importante que dans le passé, ou par le passé, donc de la position de la loge lors de l'affaire Dreyfus. Ça serait intéressant. Hein, quelle a été l'attitude de la loge lors de l'affaire Dreyfus? Malheureusement, là, ce sont les documents dont je vous ai parlé, ce fameux registre de l'architecture qui a donc somnolé pendant quasiment pas loin de 10 ans dans la terre, hein, donc on ne peut pas vraiment l'exploiter. Eh bien, on sait qu'un frère, malgré tout, demande, et c'est lacunaire, il demande à participer personnellement, mais en représentant, pour représenter la loge, à la translation, c'est le terme qui est utilisé, des cendres de Zola au Panthéon. Alors, pas non plus d'informations dans les archives que j'ai pu consulter ici ou là au sujet de la détestable affaire des fiches. Alors, l'affaire des fiches, c'est quoi? Les fiches, c'est quelque chose qui a secoué la maçonnerie du début du XXe siècle. C'est-à-dire que le général André, qui était le ministre de la guerre au début du siècle, jusqu'en 1904, est à l'origine de cette affaire des fiches. Dans le cas de l'affaire Dreyfus, puisque c'est de ceci dont on parle, son cabinet, le cabinet du ministre, hein, donc ministre de la guerre, donc, c'est le ministre des armées, ministre de la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le Grand Orient de France, à Paris, et il lui demande donc de faire le nécessaire par l'intermédiaire des loges pour connaître les opinions politiques et religieuses des officiers dans les villes de garnison. Les officiers dans les villes de garnison. Et alors, jusque-là, c'est pas très moral. Donc, certaines loges disent non, hors de question. D'autres, manifestement, alors je parle au plan national, disent bon, si c'est pour servir l'intérêt de la maçonnerie, finalement. Hein, alors, il y a tout un code qui est mentionné avec des abréviations, va à la messe avec brévière, enfin, tout ça avec des formulations en abréviation. Donc, alors, ce qui est embêtant, c'est qu'à Brive, on ne sait pas. Hein, c'était ville de garnison, évidemment. Donc, on ne sait pas. Je n'ai pas retrouvé donc, d'éléments. C'est un petit peu fâcheux. Alors, le scandale des fiches, il éclate quand on est, il éclate. Lorsqu'une personne qui est employée, donc un fonctionnaire, on va dire, un employé, pas un fonctionnaire, un employé du Grand Orient de France, rue Cadet, qu'est-ce qu'il fait pour arrondir ses fins de mois? Il vend, ça fait sourire, hein, déjà c'est une réalité, hein, il vend, quoi donc, à des organisations d'extrême droite, eh bien, un certain nombre de documents avec les fiches. Alors, bien sûr, le scandale éclate à ce moment-là, de la démission, enfin bref. Hein, donc, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'échelon local. Il n'empêche que si on revient donc à Brive, et là c'est une réalité parce que ça repose sur les sources d'archives, eh bien en 1905, donc juste avant le vote de la loi, l'atelier transmet au Conseil de l'Ordre, enfin, Conseil de l'Ordre, c'est donc la structure qui est constituée à l'époque de 33 personnes, francs-maçons, qui ont été élus, qu'on appelle donc les conseillers de Conseil de l'Ordre, qui sont élus donc. Et qui dirige l'obédience, donc le conseil exécute les décisions qui sont prises par le convent. Eh bien, l'atelier transmet au conseil de l'ordre un vœu assez explicite, et je vous le cite. « En présence des menées réactionnaires qui, plus que jamais, travaillent l'armée française, la loge de la fraternité à l'Orient de Brive émet le vœu que les pouvoirs législatifs, alors c'est pour singulier, c'est au pluriel, les pouvoirs législatifs délèguent des commissaires républicains aux armées de l'intérieur. » Donc c'est quand même assez rude comme formulation. Et moi c'est ce que j'appelle après le goupillon, hein, donc, l'anticléricalisme, eh bien, c'est le sabre. Et cette maçonnerie de combat, parce que tel a été le cas, surtout donc maçonnerie de combat pour les idées républicaines, puis contre eh bien, l'idée religieuse et le catholicisme, qui prennent une trop grande part. Trop grande place dans la société, eh bien, cette maçonnerie de combat, au fil des années, et avant l'entrée en guerre, celle de 14-18, eh bien, elle va commencer à s'étioler. Un exemple assez caractéristique, chose qui donc surprend par rapport à ce que l'on a vu précédemment, lorsque le frère Bussière, qui était conseiller général du canton de Tonsnac, qui était député, et qui est candidat, bien qu'étant député, candidat radical socialiste, hein, donc cœur là du radicalisme pur et dur, lorsque donc il se déclare candidat pour les sénatoriales de 1911, donc suffrage universel déjà indirect, hein, et bien lorsqu'il se déclare candidat, il sollicite le concours du Grand Orient de France et surtout l'appui de ses frères, corisiens. Hein, il est frère, donc si tu pouvais faire le nécessaire au moment venu pour faciliter, etc. Donc, les maires et les adjoints, évidemment, qui votent. Eh bien, à Brive, sa loge maire, enfin, loge maire, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé donc, la loge à laquelle il appartient, à ce moment-là, eh bien, il reçoit une fin de non-recevoir. On lui dit, là, acte politique ou demande politique, nous, on n'est pas fait pour ça, en d'autres termes. Donc, ça a évolué par rapport à ce qui se passait auparavant, et on peut penser que 10 ou 20 ans auparavant, la réponse aurait été différente. Cet épisode-là, bien évidemment, va paraître bien dérisoire parce que arrive, comme je l'ai laissé entendre, et ça va être la partie suivante, arrive eh bien, le cataclysme de 14-18 qui va faire, on le rappelle, un mort pour 22 habitants dans notre département. Et c'est donc ce que je vais développer maintenant. Le fonctionnement de la fraternité va être fortement perturbé pendant la Grande Guerre. On remonte un tout petit peu en arrière, 1913, au cours de l'été, donc 1913, alors que la guerre se profile, on ne sait pas quand elle va arriver, mais on sait qu'elle va avoir lieu, la loge se préoccupe du projet de loi que l'on va appeler, lorsque il va devenir ce projet de loi une réalité, la loi des 3 ans, donc elle se préoccupe, la loge, donc de ce projet de loi tendant à allonger la durée du service militaire, puisqu'il était question, et ce sera une réalité, de prolonger de 2 à 3 ans la durée du service militaire, ce qui aurait eu pour incidence directe, pour essayer de rééquilibrer les effectifs entre l'armée française et l'armée allemande, eh bien, ça aurait eu pour incidence directe de maintenir sous le drapeau la classe 11, ceux qui étaient nés en 1881, ce qui sera le cas. Je sais, c'est une parenthèse que je fais, qui n'a rien à voir avec la maçonnerie, mais mes deux grands-pères, qui étaient nés en 91, l'un au mois d'août et l'un au mois d'octobre, ils ont fait au-delà des 2 ans puisqu'ils ont été maintenus et ils ont eu de la chance puisqu'ils s'en sont tirés, mais ils ont donné quasiment 7 ans de leur jeunesse à la République, donc la loi des 3 ans pour eux et pour les autres aussi, et puis les 4 années 51 mois, un petit peu plus donc de service sous les drapeaux mais dans les tranchées et ailleurs. Alors, lors de cette tenue, la dernière de l'année, du 5 juillet 1913, donc soit 13 jours avant, j'ai calculé avant le vote du texte, la fraternité décide de saisir le Conseil de l'Ordre pour qu'il s'emploie, je cite, vous l'avez compris, à obtenir du gouvernement beaucoup de modération dans les punitions infligées aux soldats et gradés, et je vais expliquer, qui ont manifesté contre le maintien sous le drapeau des classes incorporées. Alors, quand il y a eu le projet de loi, que s'est-il passé à la caserne Brune, à Brive par conséquent? Il y a eu des manifestations de soldats. Des manifestations de soldats. L'agitation avait gagné le 126, avait gagné d'autres régiments en France, et donc lui qui était présent depuis 1907, le 126, a vu le 23 mai près de 250 soldats, donc j'ai pas trouvé ça dans les archives de la loge, mais j'ai croisé ailleurs, 250 soldats qui s'étaient regroupés dans la cour de la caserne Brune et avaient bruyamment manifesté, huant et pérorant. Et que s'était-il passé? On ne sait pas s'il manifestait avec la langue de Voltaire, s'exprimant dans la langue de Voltaire, ou en patois. Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Mais le résultat est que, effectivement, pour rétablir l'ordre, les meneurs, des caporaux, vont être dégradés, certains seront emprisonnés au trou, et d'autres seront mutés dans des régiments extérieurs à Brive, vous en doutez. Et le fait que la loge comporte à ce moment-là 18% de ses frères qui étaient donc des militaires dans son effectif, contribue à expliquer, me semble-t-il, cette prise de position. Et puis, en 1913, l'embrasement va devenir général, et les archives, malheureusement, et là je reviens à la maçonnerie, donc locales, ne sont pas très explicites et ne permettent pas de retracer avec rigueur le fonctionnement de la loge durant ces 51 mois du premier conflit mondial. On subodore, je pense être dans le vrai, mais je ne peux pas le prouver, une moindre activité, si l'on se réfère, c'est le seul argument que je puis avancer, au nombre de frères qui participent à l'élection du Vénérable Maître. Novembre 1913, 21 votants. Donc, juste avant l'entrée dans le conflit, de 21, on passe à 15 l'année suivante. 12 en 1916, c'est-à-dire une chute par rapport au début de la guerre de 43%. Alors, à prendre avec précaution, il y a pu y avoir des absences aussi, autres, mais un critère. La mobilisation, évidemment, explique cette situation. Une mobilisation qui a pu conduire à l'échelon de la loge à des démissions. Les archives, j'ai trouvé ça donc à Paris, conservent une pièce attestant qu'un frère de la fraternité qui avait été initié en 1906 a démissionné en 1914 par suite motif de sa mobilisation. Et il demandera sa réintégration, qui sera acceptée, et qui sera effective en début d'année 24. sera intégré en 2024, 6 ans après. Il avait fait la demande un petit peu auparavant. Donc, moins de maçons, manifestement, moins d'initiation aussi, moins de recrutement, en d'autres termes. Et face à cette guerre qui s'éternise, l'atelier, la loge, en février 1918, décide d'accorder à l'apprenti Maurice Jean, qui avait été initié en avril 1917 et qui est mobilisé, sa double augmentation de salaire le même jour au grade de compagnon et de maître. Donc c'est ce que j'avais laissé entendre tout à l'heure. Donc lorsque l'on change de grade, eh bien, on change de grade, mais le grade immédiatement supérieur, du premier au deuxième grade. Et puis, après avoir fait sa formation, après avoir travaillé pour accéder au troisième grade, eh bien, il faut avoir fait quelques preuves et ça demande du temps. Là, les conditions sont telles qu'on lui donne son augmentation de salaire. En même temps, il passe directement, d'autres termes, quasiment directement, d'apprenti à maître. Il faut attendre quasiment la fin du conflit, à savoir la tenue du 16 octobre 1918, pour que la fraternité procède à une quadruple initiation. Et tous les profanes, eh bien, dont la moyenne d'âge est de 34 ans, ce qui est relativement jeune, sont des employés de la compagnie du Paris-Orléans, et probablement ce sont des affectés spéciaux qui avaient été mobilisés sur place à leur poste, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été incorporés en qualité de soldats, on va dire, actifs. Hein, chacun comprendra ce qu'il y a lieu d'entendre par soldat actif. Et une fois l'armistice signé, le 11 novembre 1918, la loge ne va pas manquer d'œuvrer dans le domaine de la mémoire de la Grande Guerre. Mémoire de la Grande Guerre. Pourquoi ? Dès 1921, tenue du 13 décembre, elle vote une médaille de 30 francs. Une médaille, c'est une gratification monétaire qui est donc donnée par la loge, une loge à tel ou tel, pour tel ou tel but. Donc 30 francs hein, pour, en vue de l'élévation du monument de Douaumont, qui deviendra le futur ossuaire que chacun connaît, dont la première pierre a été posée en août 1920. Donc août 1920, un an après, donc, il y a cette participation. Et puis, à l'échelon purement local, cette fois-ci, donc, Douaumont, enfin, c'est bien local, mais ça va à Douaumont, donc à l'échelon local, en restant donc à Brive, le vénérable maître, Léonard de Bernard, qui a été manifestement un vénérable maître qui a œuvré longtemps, puisqu'il a été élu et réélu à différentes reprises, est un membre actif du comité d'organisation chargé de mettre en place, à l'endroit où vous le connaissez, hein, et bien, ce que l'on appelle alors un monument à la mémoire de nos soldats morts pour la patrie. Donc le monument à mort communal qui sera inauguré le 4 novembre 1923. Et ça, une petite allusion, parce que c'est assez intéressant sur le plan de l'histoire locale. Il sera inauguré, donc en ce mois de novembre, proche du 11 novembre 1923, par le président du Conseil en personne, Raymond Poincaré, donc l'équivalent du Premier ministre sous la Ve République, pour la Ve République, alors on est sous la troisième, il est venu, lui qui était l'ancien président de la République pendant la guerre. Alors cette présence-là du chef de gouvernement, on peut surprendre, mais elle s'explique par la préparation d'élections législatives hein, donc qui se profilent à l'horizon, et il voulait apporter son soutien à son ministre, qui était chef de gouvernement, qui était un élu, qui était candidat, bien sûr, donc qui était son ministre des Finances, Charles de la Série, qui était à nouveau candidat dans le département. Alors pour la petite histoire, allez, on y va. Donc un ancien président de la République qui est là, et il y a le grand-père d'un futur président de la République qui est là, donc qui est présent, c'est Louis Chirac, qui est là, donc instituteur, directeur d'école, hein, donc l'école Fernand Barbeau. Et qui donc, est là en qualité de président du comité de mise en place donc, de ce monument. Mise en place du monument de la victoire, monument au bois. Et bon, dans ses mémoires, c'est assez intéressant. Donc, dans le tome 1 de ses mémoires, puisqu'il y a deux tomes, vous savez, le président Chirac, c'est le président hein, qui s'exprime, Jacques Chirac parle de son grand-père en disant qu'il était d'une très haute stature et que, je l'ai pas connu très longtemps, hein, puisqu'il est mort en 37 et Jacques Chirac est né en 32, je pense, au mois de novembre, donc il avait 4 ans et demi. Mais enfin, la haute stature de ce grand-père-là le terrorisait, dit-il. Et on revient, et je referme la parenthèse, la boucle, là, on revient à la maçonnerie, il dit que c'était un anticlérical, hein, et que surtout il était maçon, il était franc-maçon, et qu'il était également vénérable local, c'est l'expression, enfin, j'ai pas noté, mais c'est ça, quand j'en donne mémoire, parce que je l'ai relu récemment dans le cadre de la conférence, vénérable local de la loge La Fidélité à l'Orient. La Fidélité à l'Orient. Donc, pour avoir un petit peu regardé, la fidélité, ça n'existe pas au Grand Orient de France. Et fidélité à l'Orient, ça n'existe pas non plus. Le terme dit la fidélité, la fraternité, virgule, à l'Orient de Brive, de Paris, etc. Mais la fidélité à l'Orient, ça n'existe pas. Et manifestement, il n'est pas connu en qualité de maçon du Grand Orient de France. Okay. Parenthèse refermée. Mais déjà, en cette année 1923, c'est ma transition vers la partie suivante. La Corrèze et la Loge sont entrées, bien évidemment, dans ce que l'on va bientôt appeler, malheureusement, l'entre-deux-guerres. La fraternité de l'entre-deux-guerres, a priori, semble avoir pris un virage. Désormais, à l'exemple national, à l'exemple du Grand Orient de France, elle inscrit davantage son action dans un mouvement que l'on peut qualifier de réformiste et de libéral, alors libéral pas au sens économique, hein, au sens politique du terme, mouvement réformiste et libéral que dans un combat, comme on l'a vu précédemment, purement idéologique. Quelques faits accréditent, me semble-t-il, cette hypothèse. Lors de sa tenue du 21 février 1920, la loge, elle entérine 8 démissions, beaucoup, hein, 8 démissions, dont quelques-unes sont afférentes à un sentiment d'hostilité à l'encontre du communisme naissant. On retiendra notamment celle du frère apprenti Morens, qui était mécanicien au Paris-Orléans, la compagnie Paris-Orléans, qui avait été initié 9 ans auparavant. Il y a eu la guerre qui explique que son parcours était un petit peu long d'apprenti, et qui n'accepte pas la directive donnée par l'atelier à certains événements tels que la révolution russe, l'élimination de 2 camarades profanes. Une autre défection le même jour prend, à mon sens, davantage de relief, c'est-à-dire que le frère au soleil, qui est professeur au collège de Brive, qui est député socialiste, hein, on est juste avant 1920, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il s'en explique. Il s'en explique donc, en disant que la maçonnerie passe aux yeux de tous pour suivre certaines directives philosophiques et démocratiques qu'il avait séduit il y a quelques 30 ans. Aujourd'hui, ces directives sont abandonnées. Quelques mois plus tard, à la fin de cette même année 1920, lors du congrès de Tours, de la SFIO, Jean-François Au Soleil sera de ceux qui créeront le Parti communiste français. De même, mesdames, puisqu'il y a un public féminin, la loge, la fraternité, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? D'après ce que j'ai pu lire, elle s'intéresse à la condition féminine au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce qui n'était pas quelque chose de très très répandu, et au mois de mars 1921, en répondant à une initiative venant de Paris, du Grand Orient de France, elle se prononce favorablement, par 9 voix contre 4, 13 votants, enfin 9 voix contre 4, en vue, je cite, de l'admission immédiate des femmes dans les ateliers du Grand Orient et avec les mêmes droits que les hommes. Voilà. Donc ceci, dès 1921. Bon, c'est pas devenu une réalité au plan national, mais à l'échelle locale, on va considérer que les francs-maçons de l'époque, eh bien, ont œuvré en espérant, ça c'est mon analyse personnelle, en espérant qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient pouvoir faire en sorte que ça se passe au plan national et pas en votant pour, en sachant qu'au plan national, ça serait non. C'est mon interprétation. Malgré tout, la fraternité, elle reste très attentive au respect donc, des droits de l'homme, à la défense de la République et de la laïcité. Quelques exemples. 1923, elle voit la transmission au siège du Grand Orient de France d'un long texte manuscrit qui est rédigé sur un cahier d'écolier. Donc, j'ai pu le voir à la rue Cadet, il est rouge, cahier d'écolier rouge, hein, donc petit format, comme c'était à l'époque, qui est intitulé, rien moins que, très belle écriture, plein et délié, intitulé complément au singulier à la rédaction de la déclaration aux droits de l'homme et du citoyen. Hein, belle réflexion, mise par écrit avec cette belle écriture, et ça part donc au Grand Orient où dans les archives on peut le retrouver. Alors, avouons-le, pour l'avoir parcouru, pas lu en détail, même si c'est rédigé que sur la page de, de droite. Donc le texte ne répond pas vraiment au canon, ce que j'appelle moi, au canon de la démarche juridique. L'argumentation n'est pas vraiment juridique. Mais toutefois, j'ai noté ça au détour de paragraphe. Il est proposé, on est en 23, pas très loin de la fin de la guerre, de supprimer eh bien, le Conseil de guerre, qui est qualifié de tare d'un pays civilisé. Là, c'est une tare d'un pays civilisé, c'est comme ça que c'est dit. Et puis, un peu plus tard, 1927, dans la salle des nouveautés, cinéma de l'époque, eh bien, à Brive, le vénérable maître de Bernard, on y revient, toujours en fonction, préside la soirée de soutien à Sacco et Vanzetti. Là, il y a 500 personnes, selon un rapport préfectoral, qui sont là, qui viennent demander que l'exécution de ces deux anarchistes, condamnés à mort sans preuves établies pour un double meurtre qu'ils n'ont jamais avoué, soit rapportée par la Cour suprême des États-Unis. Il y a beaucoup de monde, 500, mais il y a beaucoup de personnalités, il y a des discours qui se succèdent, et bon, le résultat n'est pas bon, effectivement, puisque le 23 août, dans la nuit du 22 au 23, les deux intéressés monteront sur la chaise électrique dans la prison de Charleston, dans la banlieue de Boston. En 29, la fraternité choisit de traiter un sujet que l'on appelle, ce que les maçons appellent, les questions à l'étude des loges. C'est-à-dire que chaque année, le convent établit une liste de sujets que les loges doivent traiter dans leurs ateliers. Et puis, il faut qu'ils en choisissent certainement, manifestement. Et après, il y a un rapport qui est fait, débattu, discuté, synthèse, et ça part donc au Grand Orient. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à cet égard? Oui, alors, en 29, j'ai retrouvé ça, choisi pour libeller, il est un peu à rallonge, pardonnez-moi, mais c'est la réalité, des moyens à employer pour le maintien et la défense de l'esprit laïque contre l'esprit dogmatique et dominateur d'inspiration politique, sociale ou confessionnelle. Donc, le sujet est costaud. Donc, trois pages argumentées. Je les ai vues donc, il y a deux ans, quand j'ai fait les recherches. Et donc, trois pages argumentées, mais là aussi, reconnaissons-le, elles sont davantage philosophiques que purement pratiques. Mais il y a une belle réflexion. En parallèle, dans les années 30, j'avance un petit peu, la loge doit faire face à un anti-maçonnisme véhément qui est mené à l'échelon local par la Croix de la Corrèze. La Croix de la Corrèze qui était donc le supplément corrézien de la Croix hebdomadaire qui était à ce moment-là dirigé par la famille Chastrus avec notamment des éditoriaux dénommés Flambeau qui étaient au vitriol, là où on parlait notamment. C'est ce qui me vient à l'esprit. Avec la franc-maçonnerie, on parlait du juif blou. Le juif blou, voilà, c'était quelque chose qui était assez courant, donc dans la Croix de la Corrèze. Alors, à propos du congrès régional et loges du Sud, ce sont quoi les congrès régionaux? Ce sont des regroupements annuels de, si vous voulez, à l'échelon intermédiaire par rapport au convent, donc réunion de des loges, des délégués de loges, un par loge, selon le principe une loge, une voix, donc qui se font à l'échelon des régions maçonniques. Voilà, donc là c'était la région sud. Et là, à propos de ce congrès régional des loges du Sud, qui s'est réuni à Tulle, donc chaque année c'est un endroit différent, un orient différent, là c'était en avril 34, donc l'hebdomadaire catholique présente la franc-maçonnerie comme une secte, c'est clair, dont les secrets et le silence qui l'entourent la condamnent irrémédiablement, car, écrit la Croix de la Corrèze, ceux qui se cachent, ce sont les fourbes et les méchants. Voilà donc il est dit. Et cet antimaçonnisme, malheureusement, il n'est pas nouveau, puisqu'en pleine affaire Dreyfus, déjà le complot, alors on met devant judéo, parce que tel est le cas, le complot judéo-maçonnique était agité par la presse religieuse corrézienne. Et l'on pouvait lire, je reviens en arrière, c'est après 1896, donc 1896, on pouvait lire dans la semaine religieuse de Tulle, je cite, c'est pas très long, « Et quel est le misérable qui nous a fait sortir du droit chemin ? Le voici, le franc-maçon uni aux Juifs. Depuis que le franc-maçon est arrivé au pouvoir, il a donné la main aux Juifs, son ami, ou plutôt son complice, pour déchristianiser et ruiner la France. Fin de citation. J'ai repris ce qui m'a semblé le plus caractéristique. Confronté donc à ce complot, au complot judéo-maçonnique, à l'anti-maçonnisme, les frères de la fraternité, après, pensaient avoir tout connu. Ils n'en furent rien, puisqu'avec l'entrée dans le deuxième conflit mondial, l'heure de la répression officielle allait arriver. Et l'entrée, donc c'est, je vous rassure, l'avant-dernière partie, l'entrée dans le deuxième conflit mondial va effectivement profondément altérer le fonctionnement de la maçonnerie en général en France et de la loge juiviste en particulier. Alors tout d'abord, le convent de 1939 n'a pas lieu. Plus de convent, donc il n'est pas organisé. Les frères, les francs-maçons donc de France sont inquiets, pas seulement en raison de l'enlisement dans la drôle de guerre, mais savent en fait que l'accession de Hitler en 1933 au pouvoir en Allemagne s'est soldée par la suppression des loges allemandes. Puis, après la défaite donc, et l'armistice, le 10 juillet 1940, eh bien, arrive cette date sinistre, puisque pour l'histoire de la République, ce jour-là, une écrasante majorité de parlementaires réunis à Vichy votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et seuls 80 parlementaires, députés et sénateurs, refusent d'assassiner la République, et parmi eux, ceux qui ont refusé parmi les 80, donc il y en a deux, donc il y en a deux Corréziens, donc Alexis Jobert, et puis le passé vénérable maître de la fraternité, donc à savoir François Labrousse, qui donc, a fait là, son premier acte de résistance. Et moins d'un mois plus tard, le 7 août 1940, eh bien, le grand maître du Grand Orient de France, Arthur Broussier, écrit à Pétain, au maréchal, pour l'informer que le Grand Orient cesse son fonctionnement. Plan national, évidemment. Il va cesser son fonctionnement et toutes les loges qui en relèvent, le Grand Orient, doivent immédiatement renoncer à poursuivre leurs travaux si elles n'ont pas déjà fait. Donc le grand maître, et on va dire le chef des francs-maçons, c'est une hérésie de dire ça, mais malgré tout, pour bien faire comprendre, donc a pris les devants. Pourquoi a-t-il fait cela? Son but, le but recherché, c'était d'obtenir de l'État français, dit régime de Vichy, la sécurité pour tous les francs-maçons. Hein, si on prend les devants, bien, les francs-maçons ne seront pas inquiétés, évêque Nenni. Parce que l'histoire est cruelle, et le 13 août suivant, la répression commence. C'est-à-dire qu'une première loi, il y en aura d'autres, une deuxième au moins, une loi porte dissolution, alors pas de la franc-maçonnerie, mais ce qu'on appelle des associations secrètes, c'est-à-dire des obédiences maçonniques. Et dans son article 5, la loi oblige tout fonctionnaire, État, on ne disait pas collectivité territoriale, mais donc des communes et des hôpitaux aussi, ce qui va devenir la fonction hospitalière, à déclarer sur l'honneur soit ne jamais avoir appartenu, soit avoir rompu tout lien avec une organisation secrète, c'est-à-dire ne jamais avoir été franc-maçon. Et chacun se doit de renseigner et de signer, bien évidemment, un formulaire type qui est préétabli dans cette optique. Évidemment, sans doute, toute personne qui donc souscrit une fausse déclaration s'expose à quoi? À de lourdes peines, à des sanctions, en l'occurrence, et c'est pas rien, une démission d'office par les fonctionnaires. L'émission d'office est suivie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. C'est une première étape. Un an après, on va au-delà, c'est-à-dire le 11 août 1941, une seconde loi, il n'y en aura pas trois, donc une deuxième, une seconde loi, requiert la publication dans les colonnes du journal officiel de l'État français des noms des dignitaires, je cite, des dignitaires, des aux officiers de loge et hauts gradés de la franc-maçonnerie, étant entendu que tout franc-maçon, fonctionnaire, agent civil ou militaire dont le patronyme apparaîtra, sera déclaré démissionnaire d'office. Et dès le 20 août, si on raisonne à l'échelon purement local, les premiers noms de frères membres de la fraternité sont divulgués, et au total, j'en ai relevé 31 sur la base des listes que j'ai trouvées au Grand Orient et celles dans les journaux que j'ai épluchés, donc 31. Le mois suivant, c'est-à-dire le mois de septembre 1941, le préfet ordonne des perquisitions dans les locaux de la loge ainsi qu'au service de trois frères, sans grand résultat. parce que les précautions avaient été prises, bien évidemment, donc je vous l'ai dit, les archives avaient été dispersées, elles avaient été détruites, d'autres avaient été donc enterrées. Mais face à cet ordre nouveau, d'abord vichyste puis nazi, plusieurs frères de la fraternité sont entrés en résistance et trois d'entre eux n'ont pas pu échapper à leur destin. Donc, très rapidement, je les évoque, ces personnes-là. Il s'agit tout d'abord de Raoul Desvignes, qui était capitaine d'Active au 126e avant que la guerre ne commence. Bon, il a été responsable dans la résistance de l'organisation civile et militaire. Il devient l'adjoint du frère de l'intime fraternité, Martial Brigoulex, hein, donc, qui lui va périr au Mont Valérien, hein, qui sera arrêté et fusillé. Donc Raoul Desvignes, lui, est arrêté à Lassac, dans la maison de son frère, maçonnique, hein, Gabriel Sauvage. Il sera torturé et il ne parlera pas. Il sera fusillé à Limoges le 13 septembre 1943 et après sa disparition, il sera promu au grade de commandant. Deuxième nom, il a sa rue Aubry. Hein. Deuxième nom, né en 1896, il porte deux enfants, Jean Chastre, qui a son avenue, lui, donc, vers la piscine. Jean Chastre, qui était directeur du journal régional Centre Sport, devient donc un agent d'enseignement au sein de Combat, le mouvement. Et qu'est-ce qui lui arrive? Lui, qui était socialiste, qui était considéré dès 1942 par les renseignements généraux comme l'un des membres, je cite, les plus marquants d'un groupement à tendance gaulliste, dit le Front de Résistance. Donc il est arrêté, pas par la police française, mais par les Allemands, à Brive, pendant 1944, déporté à Boreval, transféré à Dachau, et il disparaît. Ça, c'est tragique, hein, il disparaît, non pas dans le camp, mais au moment de l'évacuation du camp, le 23 avril 1945. Donc il avait tenu pendant tout ce temps-là, et puis au moment de l'évacuation, malheureusement, donc il disparaît. Puis, troisième nom, c'était l'ancien secrétaire de la loge, Albert Vergne, qui était comptable, expert-comptable de profession. Lui, il tombe dans les filets de, bien toujours, de l'ennemi. En 1943, il est déporté donc dans le sinistre camp de Mauthausen, en Autriche, donc le camp avec sa carrière aux 186 marches. Et là, son âge avancé, 60 ans, lorsqu'il est arrêté, va faire qu'il ne va pas résister et il va donc disparaître donc très rapidement. Il avait été initié, lui, en 1933, d'après ce que j'ai pu retrouver. Au total, lors de ces heures sombres du régime donc de Vichy, de l'occupation, les francs-maçons de la fraternité ont fait honneur tant à leur idéal qu'à la République, et de fait, ils ont alimenté le martyrologe des francs-maçons français tombés pour la liberté, et devant lequel, lorsqu'on va visiter le musée du Grand Orient de France, hein, à Paris, le Cadet, là où il y a les archives, la bibliothèque, hein, et puis un certain nombre de temples, eh bien, on voit sur le mur les noms par loge, on peut voir ceux qui sont tombés dans les conditions que j'ai rappelées. Ceci nous amène eh bien, à la fin, à la dernière partie, donc ça fera une heure et demie, donc presque, à savoir que s'est-il passé, d'après ce que j'ai pu retrouver là aussi, s'agissant de ce que les historiens appellent le second 20e siècle, c'est-à-dire après la fin de la guerre. Ce second 20e siècle, il commence à partir de 1945. Hein. Ce n'est pas le 1er janvier 1951. Ce que l'on peut dire, au plan national comme au plan local, c'est que la franc-maçonnerie sort meurtrie de ses années noires. Si on raisonne à l'échelon de cette loge corésienne, les effectifs de l'atelier se sont amenuisés. En 1946, lorsque de Gaulle a rétabli la maçonnerie en 1944, hein, 1946, lorsque la fraternité redémarre, elle redémarrait 45, mais le document date de 46, elle ne compte plus que 24 frères actifs. Alors qu'ils étaient 55 le 1er janvier 1940. Donc ça fait une chute de 38%. On fait grâce du pourcentage. Après la virgule. Immédiatement, que fait-elle? Dès sa première, pas la première, mais la tenue qui est suivie, hein, elle tient à honorer ses glorieux frères disparus pour fait de résistance. Les trois dont je vous ai parlé, Desvignes, Chastre et Vergne. Et lors de la tenue du 8 novembre 1945, donc ça doit être la deuxième tenue, ça, hein, après le redémarrage, on peut dire, parce qu'on va réallumer des feux, on ne peut pas les circonstances ne peuvent pas conduire tout à fait à dire ça, il est décidé que la photographie serait mise à l'Orient. Alors, à l'Orient, c'est quoi? Dans le temple maçonnique, le vénérable maître est situé donc à l'Orient, sur le plateau, ce qu'on appelle, donc, si j'ai bien compris, le bureau, donc, et à l'Orient. Et là, derrière lui, a été mis dans un cadre les portraits d'identité de ces trois frères qui ont disparu, et dont, à un moment, pour l'un d'entre eux, là, en ce mois de novembre, on n'a pas la certitude, dans 45, on n'a pas la certitude officielle qu'il a disparu. Donc, la présomption est évidente, mais il n'y a pas eu le document donc, officiel. Et, un petit peu plus tard, le 19 juin 47, ça devient effectivement une réalité, on décide de mettre la photo, et en 47, on a malheureusement la certitude que le troisième ne reviendra jamais, donc on installe les trois portraits donc, d'identité, donc, derrière le plateau du vénérable maître, et je voulais vous dire que lors de cette même tenue, oui, c'est intéressant, eh bien, la loge adopte la petite Pierrette des Vignes, donc la fille de feu Raoul des Vignes, et elle-même et sa maman, qui était une sœur du droit humain. Alors, le droit humain, c'est une autre obédience maçonnique, qui est la première obédience mixte qui a été créée en France. Elle a été créée à la fin du 19e siècle, 1893, je crois. Enfin, ma date, je ne suis pas sûr, mais c'est cette période-là. Donc mixte avec l'initiation d'hommes et de femmes. Et donc, elle, qui était sœur d'une loge du droit humain, eh bien, elle va bénéficier, comme sa fille, à diverses reprises, de la solidarité maçonnique, tant de la loge que de celle du Grand Orient de France. Ce que l'on peut dire, c'est que reconstruire n'est pas aisé pour les maçons brivistes. Quelques tenues sont annulées en l'absence du nombre réglementaire de maîtres. A priori, pour pouvoir œuvrer, travailler dans le cas des tenues, il faut au moins 7 maîtres. L'apprenti compagnon ne compte pas dans cet effectif-là. S'il n'y en a pas 7, eh bien, la tenue ne peut pas avoir lieu. Et surtout, il faut attendre eh bien, le 16 janvier 1947 pour que la loge initie à nouveau. Impétrants, donc des profanes qui vont être initiés. Et là, ils doivent, les impétrants, quels qu'ils soient, après comme ailleurs, au niveau du Grand Orient de France, ils doivent se soumettre à une série de déclarations sur l'honneur, actant de leur parcours irréprochable pendant les années 40 à 44. Bien évidemment. Et ce qui est donc surprenant, c'est que les frères qui demandent leur réintégration, qui n'ont pas pu travailler pendant la même période 40-44, ils doivent se soumettre à 3 enquêtes, à nouveau. Donc, 3 enquêtes faites par d'autres frères. Et, par exemple, pour citer ce cas, le sénateur Labrousse, qui a été passé vénérable maître, qui a été le résistant dont on a parlé, l'un des 80 notamment, il a trouvé un peu difficile de se soumettre à ce genre de choses. Et au plan national, quelqu'un que vous connaissez, dont on a entendu parler, Pierre Ménès France, quand il a vu que c'était comme ça, vu le rôle qu'il avait joué pendant la guerre, le général de Gaulle, donc, pour la mise en place du futur FMI, etc. Hein, donc, et puis, sur le plan militaire aussi, Pierre Ménès France, il a dit, bon, si c'est comme ça, je ne demande pas ma réintégration. On peut le comprendre, bien évidemment. À nouveau au travail, la loge va accueillir, à partir de 1954, eh bien, ses frères Tullis, l'intime fraternité qui s'est mise en sommeil. Donc on a vu que l'intime fraternité était le résultat d'un essaimage. Là, ça ne fonctionne pas au lendemain de la guerre, et donc ils reviennent, en d'autres termes, à Brive. Et ça va durer jusqu'en 1975, d'après les documents que j'ai pu consulter. Et ça va se caractériser par les tenues alternées entre Brive et Tulle, à partir de 1963. Pour en terminer, quels ont été les sujets de préoccupation des francs-maçons à partir des années 40, 50 et donc jusqu'à une date plus récente? D'abord, l'état de la laïcité en France. Mais à consulter donc le livre d'architecture, qui sont en meilleur état, y avoir accès, que celui dont je vous ai parlé, qui a séjourné, etc., eh bien, dans les années 50-60, la décolonisation, et notamment la question donc algérienne est davantage au cœur de sa réflexion que la laïcité. La laïcité, elle est toujours présente, hein, c'est le fil conducteur, mais il y a des temps forts où on réfléchit à la façon dont la décolonisation devrait pouvoir s'effectuer. Alors, elle n'est pas insensible non plus, la loge, à la construction européenne, le fameux marché commun, comme on l'appelle, il y a des travaux qui sont menés là-dessus, une réflexion. Sur le plan social, elle consacre des travaux au planning familial, elle consacre des travaux également au travail féminin, au droit au logement, des réflexions qui sont engagées, tout en témoignant sa sollicitude, c'est le championnat local, aux sinistrés des inondations, avril, du mois d'octobre 1960. Et en 1968, ça c'est très cocasse, hein, je crois, tout de même pour moi, par conséquent, quelques semaines avant l'embrasement du mois de mai, l'atelier débat d'un sujet que je considère comme prémonitoire, la mode et les jeunes. Alors les Trente Glorieuses, c'est aussi le temps où la fraternité en 65, ça me paraît important, initie un profane communiste. Première fois, les francs-maçons de Brive initient un profane communiste qui sera admis. Alors le fait est nouveau et permet de mesurer le chemin qui a été parcouru depuis la déclaration d'un dénommé Léon Trotsky qui avait dit que, je cite, la franc-maçonnerie est une plaie mauvaise sur le corps du communisme français, il faut la brûler au fer rouge. Voilà, donc il n'est plus là, donc à Brive, comme ailleurs, il y a eu donc des initiations de profanes communistes. Plus tard, avec l'entrée dans la crise et puis dans la mondialisation économique libérale, la fraternité s'attache à réfléchir à quelques grandes questions qui agitent les consciences, pêle-mêle, d'après ce que j'ai pu lire, je peux en citer quelques-unes. Le travail des enfants, l'illettrisme, les dérives du sport, le dopage, je suppose, hein. Donc l'exil, intéressant, l'immigration, déjà, l'euthanasie, le clonage humain, la mondialisation et l'uniformisation de la culture, donc là, au cœur des préoccupations des citoyens français, européens et ailleurs. En parallèle, la fraternité, qui depuis la fin de la guerre a vu trois des siens accéder aux plus hautes responsabilités aux instances de l'ordre, hein, c'est-à-dire que trois membres de la loge, en même temps évidemment, ont été élus donc, au Conseil de l'ordre, hein, donc à l'exécutif du Grand Orient de France, et bien donc la fraternité, en 93, j'ai retrouvé la date, je l'avais noté, m'a-t-on dit, a entamé une autre page de sa longue histoire, qui commence en 1867, en s'installant dans de nouveaux locaux, où là, elle va donner naissance à une autre loge, hein, il va y avoir une nouvelle essaimage. Et aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, c'est la doyenne, ça, bonne l'information, c'est la doyenne des 11 loges maçonniques qui travaillent à Brive, toute obédience confondue. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Alors, messieurs, dames, y a-t-il des questions à poser? Je le suppose. Moi, j'en aurais une.
C'est branché, je crois.
Ma question, ça serait qu'au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, à Brive, il y a quand même une société d'agriculture qui va d'ailleurs se mettre à discuter de questions politiques